Le spectre d'une intervention militaire américaine en Syrie s'est encore un peu plus éloigné cette semaine. John Kerry et Sergueï Lavrov ont confirmé leur adhésion à un règlement pacifique de la crise. Les monarchies pétrolières du Golfe ont de leur côté appelé à une action internationale dissuasive. Le Qatar reste en effet persuadé que le régime syrien est responsable de l'attaque chimique du 21 août près de Damas. Certaines théories du complot affirment que ce petit pays du Golfe serait à l'origine de la guerre civile syrienne, l'émirat ayant pour projet de construire un gazoduc passant par la Syrie, un projet auquel Bachar al-Assad a dit non. Le Qatar aurait-il donc tout organisé pour renverser le régime syrien pour servir ses intérêts? Écoutez les explications de Nabir Ennasri, auteur du livre « L'énigme du Qatar ».
Il faut rappeler que la relation entre Bachar al-Assad et l'émir du Qatar de 2006 à 2011 était très bonne et qu'on avait donc là un investissement massif des autorités qatariennes en Syrie et que la relation était au fixe. Donc je ne pense pas que comme ça le Qatar a changé radicalement de position vis-à-vis de la Syrie du fait d'un refus syrien d'un projet de gazoduc. C'est davantage le fait que les Qataris se sont rendus compte que l'option sécuritaire avait été privilégiée par le régime syrien, qu'il a lâché tout simplement Bachar el-Assad.
La guerre en Syrie fait toujours fuir de très nombreux civils. Plusieurs centaines de migrants syriens sont encore arrivés sur les côtes italiennes cette semaine. La France, elle, interpellée à de nombreuses reprises par plusieurs associations humanitaires, a annoncé qu'elle entendait prendre des mesures pour faciliter l'accueil des réfugiés syriens. Ce geste de la France, Amnesty International l'attendait depuis près de 2 ans, comme l'explique Jean-François Dubost, responsable du programme Personnes déracinées pour Amnesty International France.
La décision de la France est très 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 tardive. D'autres États, notamment l'Allemagne, avaient plusieurs mois déjà avant annoncé vouloir accueillir des réfugiés. Nous, nous le demandons depuis presque le début de la crise en Syrie, en tout cas à partir du moment où il y a eu un grand nombre de personnes qui ont franchi les frontières. Il était évident que ces fuites de personnes et de réfugiés n'allaient pas s'arrêter compte tenu de la tournure que prenaient les événements. Il était également évident que les pays comme la Jordanie, la Turquie, l'Irak ou le Liban ne peuvent pas ou n'allaient pas pouvoir accueillir indéfiniment un très grand nombre de personnes.
Autre pays où la population continue de souffrir, la Centrafrique. Le président Djotodia a décidé cette semaine de dissoudre la rébellion de la Séléka et parallèlement, à Rome, un appel pour la paix et la réconciliation nationale dans le pays a été signé au siège de la communauté de Sant'Egidio, notamment par des représentants du gouvernement de Bangui et du Conseil national de transition. Marco Impagliazzo, président de la communauté de Sant'Egidio, nous détaille le contenu de l'appel.
Il implique comme engagement la fin de toutes les violences, la fin des destructions des biens publics et privés et implique l'engagement de tous les partis de la société politique et civile du pays, implique le respect de qui sera l'opposition, implique pour accéder au pouvoir, il faudra le faire seulement à travers des moyens démocratiques.
À Rome, toujours, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a dressé un constat alarmant cette semaine. Plus d'1 milliard de tonnes de nourriture est gaspillée chaque année dans le monde. Un gaspillage qui a un coût, environ 750 milliards de dollars par an. Et la production de cette nourriture gaspillée occupe 30% des terres cultivables. Écoutez la réaction de Jeanne-Maureen Joran. Elle est chargée du plaidoyer souveraineté alimentaire au Comité catholique contre la faim et pour le développement.
Pour nous, ce gaspillage alimentaire, il a tout d'abord une conséquence humaine très importante parce que face à ces plus de 1 milliard de tonnes d'aliments gaspillés, il faut prendre en compte que le fait que 900 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd'hui, donc il y a une conséquence directe sur ces productions alimentaires qui finalement ne sont pas utilisées alors même qu'on a des personnes qui souffrent de la faim.
Au Vatican, le pape François fêtait ce vendredi ses 6 mois de pontificat. Le souverain pontife argentin est parvenu à imposer un nouveau style simple et imagé, posant des gestes forts et symboliques, établissant une nouvelle manière de communiquer. Pour Lucetta Scarafia, historienne, journaliste et coordinatrice du supplément féminin mensuel de l'Osservatore Romano, ces nouvelles manières de faire révolutionnent incontestablement la papauté.
Ont été très importants les coups de téléphone qu'il a donnés, car ils sont le symbole d'un différent rapport avec le peuple des croyants. Car il ne parle pas à tout le peuple ensemble, mais il veut parler à chacun à son cœur. Et je pense qu'après les coups de téléphone, après la lettre qu'il a écrite à Eugenio Scalfari, chacun pense que le pape parle à lui. C'est une individualisation du rapport entre le pape et le monde.
Les Chiliens commémoraient cette semaine le 40e anniversaire du coup d'État du général Augusto Pinochet. Le Chili vit aujourd'hui en grande partie de son héritage et des institutions qu'elle a léguées aux civils. Cela n'empêche pas pour autant des militants des droits de l'homme de manifester régulièrement pour réclamer justice. Comme nous l'expliquait Olivier Compagnon, il est spécialiste de l'Amérique latine à l'EHEL.
Qui sont parfois encore mal refermés, liés à ce coup d'État. Et par ailleurs, c'est aussi une question plus structurelle depuis la transition à la démocratie des années 90. Puisque les conditions de cette transition, on les connaît parfaitement. Les militaires ont remis le pouvoir aux civils, moyennant une impunité dont ont bénéficié de nombreux bourreaux des années noires. Et donc, il est logique que les familles des victimes continuent à demander justice. On a donc une convergence des deux phénomènes qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le 11 septembre 73 demeure dans l'espace politique et social chilien un moment absolument essentiel sans lequel on ne peut pas comprendre le Chili contemporain.